Bonjour à tous. Je dois vous apporter les salutations de mon assemblée, qui vous dit bien bonjour à vous. Acte 10. Ce texte que il me venait à l'esprit, c'est le jour d'une réunion de prière commune avec l'Alliance à Belfort, avec toutes les églises réunies. Il y avait plein de monde dans cette salle et un salutiste a prié et il a dit: Père, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui ne sont pas nées de nouveau. Et moi, ça m'a... Bien sûr, je me dis, mais est-ce que c'est possible qu'on vienne à une réunion de prière et qu'on est fidèle et qu'on ne soit pas nés de nouveau? Alors, j'aimerais lire ce texte des récits de Cornélie. Il y avait à Césarée un homme nommé Cornélie. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Mais à la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Cornélie. Les regards fixés sur lui, elle saisit d'effroi et répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et elle s'en est souvenue. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Cornélie appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les grands coins qui descendait et s'abaissait jusqu'à terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit: « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fait encore entendre: « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Je vais abréger le récit, puisqu'après il nous appelle que Pierre se rend à Césarée. Il obéit quand les anges, les messagers sont arrivés vers Pierre. Au moment où Pierre a fini sa prière, les envoyés de Cornélie arrivent. Pierre donc les fit entrer et le lendemain il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornélie les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Lorsque Pierre entra, Cornélie, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se releva en disant: « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Cornélie dit: il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Cornélie, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelques-uns vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Seigneur, merci pour ta parole. Veuille la bénir et la rendre accessible pour notre esprit, pour notre corps, et que nous puissions recevoir quelque chose de ta part ce matin. Amen. L'Église, si nous lisons le chapitre 9, hein, le chapitre qui précède, Nous lisons au verset 31 que l'Église était en paix. Oui. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. C'est édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus avait demandé aux disciples avant de les quitter. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une partie de ce commandement s'était réalisée suite aux persécutions. Mais il restait à poursuivre l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Ce récit marque un changement dans la mission des disciples. Et pour bien le comprendre, il nous faut comprendre la situation d'alors. Au début de l'Église, quand le Christ commençait à la Pentecôte par le descendre du Saint-Esprit sur les disciples, composés uniquement de croyants juifs. Il n'y avait pas de païens. Avant son ascension, Jésus avait annoncé que la repentance devait être prêchée à tous, que le pardon des péchés devait être annoncé à toute la création, en commençant par Jérusalem. Mais les disciples, peut-être, n'avaient pas intégré qu'il fallait aller plus loin. Pourtant, je me pose une question quand on voit l'activité des disciples. Quand est-ce que c'est le moment d'aller plus loin, de continuer l'évangélisation? Quand est-ce que, là où on est, les gens ont compris? Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui disait, l'évangélisation, c'est placer chaque personne devant un choix à faire. Une fois qu'il a compris qu'il a un choix à faire, à lui de répondre, notre responsabilité ensemble. Hein. Dans Acte 2, chapitre 39, Pierre dira à toute la multitude que la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et il nous a dit, au verset 47, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La persécution a pour effet que l'Évangile traverse les frontières. On connaît tous le récit de Philippe, parti en Samarie, mais certains allèrent plus loin, jusqu'en Phénicie, dans le territoire de Tyr et Sidon, donc le Liban actuel, et Antioche en Syrie, et jusque dans l'île de Chypre. Il fallait l'intervention flagrante du Saint-Esprit pour changer la donne, pour que les disciples intègrent qu'il fallait aller plus loin et accepter que Jésus était venu aussi pour les païens, et pour nous d'ailleurs, et élargir ce témoignage aux non-juifs. D'ailleurs, après sa rencontre avec Corneille au chapitre 11, Pierre a dû se justifier devant les apôtres à Jérusalem. Les apôtres et les frères étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté donc dans cette conférence à Jérusalem, il a fallu qu'il s'explique. Les fidèles circoncis, les juifs donc, adressaient des reproches à Pierre. Certains membres de l'église de Jérusalem étaient opposés à l'entrée des païens convertis dans l'église. Un païen qui se convertissait d'abord devait d'abord devenir juif, se faire circoncire et respecter les lois du judaïsme avant de devenir chrétien. Dans Matthieu 15, quand Jésus rencontre la femme cananéenne, il va lui confirmer qu'il n'est pas venu pour les brebis perdues d'Israël. Avec ce texte, j'ai beaucoup de mal. Comment Dieu, Jésus, répond à cette femme? Mais il lui reconnaît le droit de participer aux bénédictions que les Juifs ont rejetées. Elle est prête à se contenter des miettes, des bénédictions promises au peuple d'Israël et qu'eux ont rejetées. Et Jésus n'a pas craint de s'approcher d'elle. Il n'a pas craint de s'approcher de la Samaritaine. Il n'a pas craint de s'approcher de Zachée, collaborateur des Romains, pour venir leur donner l'assurant de ce qu'il a fait à la croix. Par le ministère de l'apôtre Paul et ses écrits, nous voyons que Dieu a changé la vision des Juifs. Je peux lire dans Galates, au chapitre 3. Si quelqu'un le trouve, peut le lire, en plus que moi. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus de homme ou femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Ça, c'est une évolution dans la pensée des Juifs. Et Paul pouvait bien affirmer qu'il n'y a plus de différence. Il n'est plus question de privilège du peuple juif. Les païens convertis, c'est-à-dire nous sommes co-héritiers. On participe à la même grâce, à la même promesse que le peuple juif. Revenons à notre texte. Il fallait une vision vraiment importante pour que Pierre comprenne que Christ était mort aussi pour les païens. La vision de Pierre, je ne sais si vous avez remarqué le timing de Dieu. Au moment où les envoyés du centenier arrivent à Joppé, Pierre a une vision. Et quelle vision ? Elle va remettre en cause toute l'éducation, mais aussi l'observance des lois mosaïques, une espèce de nappe attachée aux quatre coins de cette nappe, et dedans cette nappe, toutes sortes d'agneaux impurs que la loi de Moïse interdisait aux Juifs de manger. Dieu demande à Pierre de tuer, de manger ces animaux. Et Pierre est choqué. Il dit non à Dieu. Ce n'est pas la première fois que Pierre dit non à Dieu. Il avait déjà dit non à Dieu quand Jésus lui avait annoncé qu'il allait souffrir et mourir pour eux. Non, ce n'est pas possible, tu ne vas pas mourir, ça ne t'arrivera pas. Lorsque Jésus a voulu lui laver les pieds, il lui dit « Ne jamais tu me laveras les pieds !» Combien de fois avons-nous dit non à Dieu, sans peut-être le dire ouvertement, mais dans des situations que nous vivons. Quelqu'un disait « Chaque fois que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous dites non à Dieu. » Ce qui est étonnant de la part de Dieu, c'est qu'il ne dit pas à Pierre ce qu'il va faire. Pourquoi il lui dit de descendre ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Mais alors qu'il réfléchissait au sens de cette vision, les hommes envoyés par Corneille arrivent. Et Dieu lui dit simplement, « Lève-toi Pierre, va avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Cela me fait penser à Philippe, qui évangélisait en Samarie. Quand Dieu lui dit, voilà, il nous a dit, hein, il était prospère, les Samaritains se convertissaient en nombre. Philippe était bien occupé, puisqu'à l'époque, il nous a dit que les apôtres sont venus faire du travail de suite après tous ceux qui se convertissaient dans ces Samaries. Et voilà que Dieu lui demande à Philippe, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza. Et il donne une précision, celui qui est désert. Là non plus, on ne comprend pas les hommes de Dieu. Comment Dieu va lui demander ? Surtout qu'il lui donne une précision sur le chemin qui est désert. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Je suis tellement occupé. Laisse-moi finir mes comptes avant de descendre. Surtout s'il n'y a personne là-bas, qu'est-ce que je vais y faire ? Tout comme à Pierre, il ne lui a pas donné. Dit Dieu, qu'est-ce qu'il ferait ? Mais il lui a dit, lève-toi et va. Beaucoup de fois, nous avons des appels de la part du Seigneur, d'aller dans tel autre endroit, telle mission, on ne sait pas pourquoi. Philippe aurait pu quand même dire à Seigneur, mais non, attends un peu, ici il y a tellement de boulot à faire, je ne peux pas quitter mes oreilles comme ça. Quelqu'un disait, si vous n'obéissiez pas à la parole de Dieu, que quand vous comprenez que votre logique intègre que oui, c'est bien, je vais y aller, je vais occuper, ce n'est plus rien à voir avec la foi. La foi, quand on se met en route, c'est qu'on ne sait pas. Quand on vit des expériences, on ne sait pas pourquoi, qu'on les accepte parce qu'on sait que Dieu ne se trompe pas. C'est la foi. Pierre donc se met en route pour Césarée, à peu près une journée et demie de marche. À l'approche de Pierre, l'officier romain se prosterne aux pieds de Pierre, ce qui choque l'apôtre. « Je suis un homme comme toi. » Ne pas à m'adorer. Mais Pierre va quand même lui demander des explications pourquoi il l'a fait venir. Car tu devrais savoir qu'il est interdit à un juif d'entrer chez un étranger. Qui est Corneille ? Au verset 2, c'était un homme pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'était un Romain. Il avait intégré la foi des croyants juifs. Alors je me suis posé cette question justement. Si avec une pratique religieuse exemplaire, bien plus fidèle que moi, Corneille n'était pas sauvé. Heureusement que j'ai lu, que je peux affirmer que Corneille n'était pas sauvé. Parce qu'il y a un verset. Verset 11 au verset 14. Lorsque Corneille raconte toute son histoire, c'est quand Pierre était devant le conseil de Jérusalem. Ces hommes nous racontent, ils racontent donc au concile de Jérusalem, devant les apôtres, cet homme nous raconta qu'il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait à lui et disait « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. » Corneille n'avait pas toute la révélation de Dieu et il fallait que Pierre vienne compléter sa formation. Et ce n'était plus après de la pratique religieuse, hein. C'est bien cela qu'il faisait, mais il n'était pas sauvé. La nécessité de la repentance était obligatoire pour que Corneille puisse recevoir l'Esprit de Dieu. La nécessité de la repentance, elle est obligée avant la conversion. C'est la décision incontournable pour être au bénéfice de la grâce imméritée, acquise à la croix. Combien dans nos églises il y a des personnes qui sont fidèles, actives dans l'église, mais qui ne sont pas sauvées. Verset 43. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est incontournable, la grâce imméritée, acquise à la croix, pour mériter le salut. Vous connaissez tous ce verset de Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 14, « Le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il n'y a pas de discussion. Croire en Jésus, ce n'est pas simplement croire en lui en tant que personne. On dit souvent « je crois en Dieu ». Mais c'est surtout croire Dieu, croire ce qu'il a fait, ce qu'il a acquis au prix de sa vie. Croire en Jésus, ce n'est pas simplement une religion, mais c'est mettre en pratique et accepter par la foi ce qu'il a acquis à la croix. Pierre a reçu une confirmation que le Seigneur ne fait pas exception de personne. alors qu'il paraît encore au centenier et à toute la foule réunie. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Les fidèles qui avaient accompagné Pierre furent étonnés que le don du Saint-Esprit était répandu chez les païens. Car ils entendaient parler dans des langues différentes et glorifier Dieu. C'est une deuxième Pentecôte. On parle toujours, là, acte 2, la Pentecôte, quand elle descend sur les disciples, on parle que de cette Pentecôte-là. Mais elle est arrivée aussi pour les païens. Vous lirez tout ce texte-là, combien c'est précieux pour nous que Dieu a veillé pour que le Saint-Esprit, pas de distinction de race ni de couleur, mais seulement la position que nous avons en Christ, acceptée, qu'on était pécheurs et qu'on a besoin de sa grâce. Combien de gens dans nos églises n'ont pas fait ce pas, n'ont pas compris. Je demandais à quelqu'un une fois, avec qui je travaillais dans la rénovation, dans la construction, et je me disais, comment tu es venu au Seigneur ? Oh, ben il dit, j'étais catholique, je me suis marié avec une ménop, et puis voilà, je l'ai accompagné à l'église. Puis, puis ça continue, puis il est content. Pierre ordonna que tous furent baptisés ce même jour. Parfois je me dis, combien de fois nous attendons que les jeunes soient prêts. On attend qu'ils aient vraiment compris et intégré la position en Christ que nous avons. Ce salut, la démarche du pardon, la reconnaissance, la repentance, ensuite l'acceptons par la foi du sacrifice à la croix. Et là, ils sont baptisés tout de suite. Et nous, on attend parfois que les jeunes soient mûrs, qu'ils aient bien compris, qu'ils aient bien intégré. Mais Dieu, Pierre ordonna que tous furent baptisés, tout comme à la Pentecôte. C'est un appel, notre obéissance, le baptême. Ce n'est pas cela qui va les sauver, mais c'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils demandent le baptême. Rappelez-vous ce que disait quelqu'un à chaque fois que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous dites non à Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés par le Seigneur, qui nous donne vraiment cette certitude que ce qu'il a payé au prix fort à la croix, il a payé tellement cher que c'est gratuit ce qu'il nous donne. Un cadeau, c'est gratuit. Corneille dit à Pierre au verset 33, « Nous sommes tous devant toi pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Il avait besoin de comprendre qu'il n'était pas sauvé, malgré une pratique religieuse parfaite. Il s'occupait des pauvres. Il priait, il faisait l'aumône. Il n'était pas sauvé. Nous sommes tous devant Dieu ce matin. Laissons-nous interpeller par sa parole et revoir ses exigences pour une marche avec lui qui porte du fruit. Nous avons besoin de comprendre que notre vie est à lui maintenant et que nous, si nous portons du fruit, ce n'est pas pour mériter le salut, mais c'est parce que nous avons le salut et que nous pouvons être des témoins fidèles qui témoignent de la véracité de ce que Dieu a fait. Savoir que toutes les pratiques, les engagements que nous avons dans l'Église n'ont aucune valeur si elles ne sont pas en récompense ou en remerciement à Dieu de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Je ne sais pas si vous avez déjà donné cette image lors d'un entretien d'embauche dans un établissement chrétien, le responsable demande au postulant « Quel est ton parcours de vie ?» Que sais-tu faire alors? Le jeune tout content dit ah ben j'ai mon CAP de menuisier. Alors le chef de stage il met à zéro. J'aime les enfants. Il remet à zéro. Ça fait 2-0. J'ai fait des études bibliques. 3-0. Je peux prêcher de temps en temps. 4-0. Ah oui, j'ai été missionnaire outre-mer. 5e ou 6e zéro.
dépité, le pauvre homme, le jeune, ne savait plus quoi faire, plus quoi répondre, plus quoi dire, il n'avait plus de recours. Ah, il se souvient. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, car je sais qu'il est mort à ma place et qu'il m'a pardonné. Je suis son enfant. Alors, l'examinateur met un devant tous ses zéros, ce qui a donné toute la valeur à ce qu'il savait faire. Que le Seigneur nous aide, que ce soit notre expérience. Tout ce que nous pouvons lui faire en reconnaissance pour lui, de notre valeur parce que nous sommes son enfant et qu'il a donné sa vie pour nous. Prions. Notre Dieu, merci pour le privilège que nous avons de te connaître, d'être au bénéfice de la grâce, Seigneur. Oui, merci parce que tu as été jusqu'au bout. Ce que tu as payé le prix fort, c'était pour nous donner l'assurance du pardon de nos péchés et la vie éternelle. Sois béni, Père, pour ta fidélité. Renouvelle nos corps et notre esprit ce matin. Fais-nous du bien. Te prions pour les familles que nous représentons, ceux qui se sont éloignés de toi peut-être, qui ne veulent plus rien savoir de toi peut-être à cause de nous. Visite-les, Père, qu'ils puissent être comme ce centenier, comme Corneille, être fidèles, revenir à toi, être devant toi et entendre tout ce que tu as à leur dire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, Père. Amen.